Radio Okapi. Okapi.
Okapi Service, du lundi au vendredi, de 9h à 11h, heure de Kinshasa, avec Tati Mampoukou. Okapi.
Nous voici dans la seconde partie du magazine Okapi Service et nous allons aborder un thème lié au domaine de la santé. Quelles sont les causes majeures et les moyens de prévention de l'hypertension artérielle? Nous en parlons avec Dr Kamwanga Zéphirin, il est cardiologue. Docteur, bonjour et bienvenue dans ces rendez-vous d'Okapi Service.
Bonjour, messieurs les journalistes.
Si ce thème vous intéresse, appelez-nous pour intervenir en direct au numéro 099-706-9941. Appelez-nous, nous allons vous rappeler pour intervenir en direct par SMS. Nous attendons vos commentaires, témoignages et questions au numéro 099-706-9941. C'est aussi possible de nous laisser vos commentaires sur la page Facebook d'Okapi Service. Nous attendons également vos suggestions, témoignages et questions dans les courriels dénommés service@radiokapi.net. Tati Mapoukou, c'est moi qui présente et coordonne ces numéros sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Élise Kavira est à la réalisation et Hippolyte Kapanga s'occupe de la prise de son. Toute l'équipe vous souhaite une excellente condition d'écoute de ces rendez-vous d'Okapi Service.
Radio Okapi vous propose un nouveau programme d'enseignement à distance intitulé Pana Okapi Éducation avec les partenariats de l'UNICEF et le ministère des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale. Pana Okapi Éducation est à suivre du lundi au vendredi entre 16h et 17h, heure de Kinshasa, sur la fréquence de la paix. Rediffusion samedi de 9h à 11h, dimanche de 10h à 12h. L'enseignement à distance, à la portée de tous les enfants de la République démocratique du Congo, c'est notre raison d'être. On se retrouve donc du lundi au vendredi, entre 16h et 17h, pour Pana Okapi Éducation. Un rendez-vous à ne pas manquer sur Radio Okapi.
J'écoute pour apprendre avec Radio Okapi.
Radio Okapi, encore plus près de vous.
Merci de votre fidélité à Radio Okapi, la fréquence de la paix. L'hypertension artérielle HTA est une maladie chronique, courante en RDC, mais la sensibilisation du public reste limitée. Selon les experts en santé publique, beaucoup de personnes ne sont pas diagnostiquées ou ne reçoivent pas des traitements adéquats. Et autre constat, les infrastructures de santé sont souvent insuffisantes, surtout dans les zones rurales. Et cela limite l'accès aux soins et aux traitements pour les patients hypertendus. Quelles sont les causes majeures de l'hypertension artérielle? Comment s'est fait sa prise en charge médicale? Et quels sont les moyens de prévention de l'hypertension artérielle? Et quelle hygiène de vie adopter lorsqu'on souffre de cette maladie chronique? Nous allons aborder toutes ces questions avec notre invité. Il s'appelle Dr Kamwanga Zéphirin. Nous rappelons qu'il est cardiologue. Une fois de plus, bonjour docteur et bienvenue dans ces rendez-vous.
Bonjour monsieur le journaliste.
Première question, hypertension artérielle, de quelle maladie il s'agit?
La pression artérielle élevée et persistante dans le système artériel systémique est la caractéristique de l'hypertension qui est un facteur de risque de mortalité et mortalité cardiovasculaire. De façon pratique, est déclarée hypertendue toute personne présentant une pression artérielle
supérieure à 12
ou égale à 140 sur 90 mm de mercure ou supérieure ou égale à 14 sur 9, comme on le dit couramment. Cela à plusieurs consultations.
Et quel est le seuil acceptable concernant les battements cardiaques?
concernant le battement cardiaque, c'est entre 60 et 100 battements par minute.
Mmh.
Lorsque ça dépasse, là on va parler de tachycardie, ou lorsque les battements sont en dessous des 60 battements, on va parler de bradycardie. Mais s'agissant de l'hypertension, l'essai qui définit l'hypertension, c'est une pression artérielle systolique supérieure ou égale à 140 sur 90 mm de mercure.
Est-ce que l'hypertension artérielle, les HTA, constitue un problème de santé publique ici en RDC, docteur?
Oui. Bien évidemment, l'hypertension artérielle, c'est un facteur de risque cardiovasculaire majeur et c'est un problème de santé publique parce que nos données ont rapporté une prévalence de 25 à 40% d'hypertendus chez nous en RDC.
On peut avoir une idée sur les sujets à risque et c'est à partir de quel âge qu'on peut s'exposer à développer cette maladie chronique?
L'hypertension peut arriver à tout âge, hein. Même les jeunes, ils développent l'hypertension artérielle.
Mais est-ce qu'on peut avoir une idée sur les causes majeures, hein?
Parmi les causes majeures, nous avons les facteurs de risque non modifiables, c'est comme l'âge, c'est comme le sexe, c'est comme l'hérédité. Et parmi les causes modifiables, les facteurs de risque modifiables, nous avons l'alimentation déséquilibrée, riche en sel, riche en sucre, riche en graisse, pauvre en fruits et légumes. Nous avons l'inactivité physique ou la sédentarité. Nous avons l'excès, la prise de poids ou l'obésité, la prise excessive d'alcool aussi et la prise de tabac.
Et est-ce que y a, l'alimentation aussi a une incidence sur la prévalence de l'hypertension artérielle, docteur?
Oui, l'alimentation a une incidence sur la prévalence de l'hypertension artérielle dans le sens où la population qui consomme en excès du sel et qui ne consomme pas les fruits, cela expose au développement de l'hypertension.
Et je veux savoir si dans les consultations de tous les jours, vous recevez des patients qui sont affectés par cette maladie chronique et ils arrivent souvent dans vos cabinets pour consultation à quel stade de la maladie?
Bon, l'hypertension généralement ne donne pas de symptômes. Les malades hypertendus peuvent rester asymptomatiques, c'est-à-dire ils ne se plaignent de rien. Et dans ce cas, l'hypertension peut être des découvertes fortuites à l'occasion d'une autre complication. Ou bien, les hypertendus peuvent développer les maladies cardiovasculaires comme les AVC, les crises cardiaques, des problèmes rénaux. Et là, l'hypertension est découverte suite à une complication. Mais dans la plupart des cas, les patients sont asymptomatiques.
Et nous tenons à signaler que nous sommes en train de tourner ces rendez-vous, cette émission, à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'hypertension artérielle. C'est prévu le 19 mai prochain. Pouvez-vous nous faire une idée sur la thématique qui a été choisie et est-ce qu'il y a une série d'activités qui vont être organisées dans le cadre de cette commémoration?
La thématique choisie, c'est la prévention des maladies cardiovasculaires. Et parmi les activités que nous avons choisies, qui seront à l'ordre du jour, nous avons la sensibilisation sur l'adoption du mode de vie sain. C'est-à-dire, nous allons insister beaucoup plus sur les régimes, les activités physiques et puis la réduction pondérale.
Et est-ce que c'est une maladie méconnue du grand public parce que vous faites allusion à la sensibilisation?
Oui, c'est une maladie méconnue. Moi, dans la plupart, dans les consultations, les patients viennent, la plupart ne savent même pas qu'ils sont hypertendus. Et quand vous leur dites que vous avez une pression artérielle élevée, ça doit nécessiter une prise en charge, qui soit médicale et non médicale, bon, la plupart n'acceptent pas. C'est une maladie méconnue.
Donc, il y a un problème de la méconnaissance de la maladie et d'acceptation de la maladie par certains patients.
Bien évidemment.
Mais qu'est-ce qui justifie cela?
C'est par rapport au niveau des connaissances, raison pour laquelle nous devons mener des campagnes de sensibilisation, expliquer à la population une éducation sanitaire pour leur sensibiliser à faire ce que nous appelons le dépistage. Le dépistage ne concerne pas seulement les, ceux qui sont malades, même ceux qui sont en bonne santé. Nous recommandons chez les moins de 40 ans d'aller se faire dépister tous les 3 ans à l'hôpital. Chez ceux qui sont au-delà de 40 ans, chaque année de passer à l'hôpital pour la, la prise de l'attention.
Et dites-nous, est-ce que l'accès aux soins de la population congolaise contre l'hypertension artérielle est à la portée de tout le ménage? Quelle est la réalité qui se dégage sur terrain? Parce que c'est une maladie chronique, et une fois qu'elle s'installe, il faut se soigner à vie. Est-ce que le patient dépisté positif arrive à respecter les soins, à observer l'hygiène alimentaire que vous leur observez? Est-ce qu'il y a des facteurs économiques qui font que certains patients n'arrivent pas à bien suivre, à bien se soumettre au fait, aux prescriptions que vous leur donnez?
C'est difficile dans notre contexte, surtout que la plupart des patients ne sont pas pris en charge ni par la société ni par l'État. Cela limite l'accès aux soins. Moi, je me rappelle beaucoup de malades diagnostiqués hypertendus. Ils suivent pas normalement les rendez-vous, ils viennent pas. Ils viennent pas, et puis quand la pression artérielle est contrôlée, ils abandonnent le traitement. Ils ne continuent pas à le prendre, soit par faute de moyens, ou bien
par négligence.
Par négligence aussi. Oui.
Mais il y a, dans ce cas-là, c'est qu'il y a aussi des conséquences négatives pour ceux qui négligent au fait l'accompagnement médical.
Oui, des conséquences négatives, c'est comme on venait de le dire tantôt, l'hypertension artérielle, c'est un facteur de risque de maladies cardiovasculaires majeures. Tout patient hypertendu diagnostiqué qui ne suit pas les traitements, il est exposé à faire des maladies cardiovasculaires comme des AVC, comme des crises cardiaques, comme des insuffisances rénales et d'autres maladies.
Et comment ça se passe lorsque vous détectez le patient positif? Le traitement, c'est au cas par cas ou il y a un traitement générique pour tous les patients affectés par l'hypertension artérielle?
Bon, normalement, pour tous les patients diagnostiqués hypertendus, parce que dans les temps, on s'est basé d'abord sur la stratification du risque cardiovasculaire avant d'initier les traitements. Mais selon les modèles qui nous permettent actuellement de stratifier les risques cardiovasculaires, tout patient déclaré hypertendu est déjà à haut risque cardiovasculaire. C'est-à-dire par rapport au seuil, tout patient hypertendu, il doit commencer le traitement antihypertenseur qui est fait d'une part des mesures hygiéno-diététiques et d'autre part des médicaments à prendre.
Des médicaments à prendre matin, midi, soir ou matin, soir?
Non, on a simplifié pour des raisons d'observance thérapeutique. Actuellement, tous les médicaments sont associés dans un seul comprimé.
Dans une seule molécule.
Dans une seule molécule. Et puis c'est en monoprise. C'est-à-dire que ces médicaments-là doivent avoir une longue demi-vie. Pour qu'il soit pris seulement une fois les jours.
Et dites-nous, au cours de la sensibilisation, vous avez prévu donner quel message à la population qui viendra suivre les messages que vous voulez avoir réservés?
C'est essentiellement l'adoption du mot de vie sain.
C'est quoi? Qu'est-ce qu'on entend par l'adoption?
L'adoption du mode de vie sain, c'est l'alimentation équilibrée, riche en fruits, riche en légumes, pauvre en sel.
Manger beaucoup de légumes, manger beaucoup de fruits, les fruits de saison. Actuellement, par exemple, ce sont les oranges qui apparaissent sur les marchés, les bananes de table.
Les ananas, tous les fruits. Manger beaucoup parce que les fruits sont riches en potassium. Le potassium a le potentiel de réduire la tension.
Et concernant la viande que l'on réduise ou
La viande qu'on réduise, généralement les viandes grasses qu'on réduise la consommation.
Et concernant l'activité physique, il faut l'observer à quelle fréquence?
Ce qui est recommandé, c'est 30 à 45 minutes d'activité physique 3 fois par semaine.
Trois fois par semaine.
Ouais.
Dites-nous alors comment ça se passe parce qu'il y a des antécédents familiaux qui peuvent également occasionner l'hypertension artérielle c'est une maladie que l'on peut développer suite à la mauvaise hygiène de vie.
Ici, il y a l'association entre les deux facteurs. Nous avons les facteurs génétiques et l'environnement. C'est-à-dire une personne issue d'une famille où le papa, la maman étaient hypertendus, cette personne-là est prédisposée à développer l'hypertension. Mais comme on le dit toujours, la génétique peut prédisposer, mais c'est l'environnement qui favorise.
Alors, est-ce qu'en termes d'accompagnement médical, parce que vous avez dit que précédemment, au fait, la couverture médicale pose problème pour des patients hypertendus. Mais comment faites-vous sur terrain? Comment opérez-vous avec les patients qui sont déclarés hypertendus parce que peut-être certains n'ont pas assez de ressources pour satisfaire aux soins?
Bon, dans ce cas, nous aussi, on est limité. On initie les traitements et à un moment donné, les patients sont perdus de vie.
Ils disparaissent, oui.
Ils disparaissent. Et puis, parfois, on vous appelle quand ils développent les complications cardiovasculaires liées à l'hypertension.
Oui, ça, c'est à Kinshasa. Et docteur, on suppose que dans l'arrière-pays, la situation est beaucoup plus compliquée.
Oui, ça
c'est une réalité.
Ça, c'est une réalité, oui.
Et qu'est-ce que vous recommandez? Est-ce que vous avez des recommandations, des suggestions à faire à l'intention des décideurs, des gens qui nous suivent? Parce que la journée mondiale, nous le rappelons, que ça sera célébré ce 19 mai.
Ce que nous pouvons recommander, c'est nous demandons aux autorités de financer les programmes qui prennent en charge les maladies cardiovasculaires chroniques comme l'hypertension, mettre à la disposition les moyens, ces programmes-là, les moyens de prise en charge, les médicaments, tout ça, ce que nous recommandons.
Et aux patients, les patients qui sont affectés par l'hypertension artérielle, est-ce qu'il y a une conduite à tenir en termes de repos?
Oui, pour les patients, parce que dans tout ça, les mesures hygiéno-diététiques augmentent l'efficacité des médicaments que nous donnons aux malades. Nous recommandons aux malades de diminuer le stress, parce que le stress professionnel, le stress de la maison, tout ça, ont une influence négative sur l'hypertension artérielle. Et en dehors de ça, nous leur recommandons les activités physiques de façon régulière, comme on venait de le dire, et l'adoption du mode de vie sain en termes d'alimentation.
Et dites-nous, est-ce que je voulais dire concernant les produits pharmaceutiques, est-ce que il y a aussi des gens, des patients qui recourent à la phytothérapie pour se faire soigner de l'hypertension artérielle, et certains phytothérapeutes disent qu'ils arrivent aussi à guérir même des patients. Est-ce que c'est fondé cet argumentaire?
Bon, c'est vrai, la phytothérapie a des vertus thérapeutique que moi je ne peux pas remettre en cause. Mais quand tu as donné de façon objective l'impact ou le mécanisme d'action de ces médicaments là, je préfère un peu me réserver parce que
voilà. Quelles sont les causes majeures et les moyens de prévention de l'hypertension artérielle? Nous en parlons dans cette deuxième partie du magazine Okapi Service. Et si ce sujet vous intéresse, appelez-nous pour intervenir en direct au numéro 099-706-9941. Appelez-nous, nous allons vous rappeler pour intervenir en direct. Okapi. Je voulais savoir, docteur, quelle est la tranche d'âge la plus exposée à développer l'hypertension artérielle?
La tranche d'âge la plus exposée, c'est au-delà des 50 ans.
Au-delà des 50 ans.
Oui.
Et est-ce qu'on peut avoir une idée? Donc déjà, à partir de 40 ans, il faut se faire diagnostiquer régulièrement.
Oui, à partir de 40 ans, on recommande de se faire dépister. Un dépistage qui peut être soit systématique ou un dépistage opportuniste en raison d'une consultation chaque année lorsqu'on a une pression artérielle normale. C'est-à-dire chaque année, tout individu non hypertendu, il doit aller à l'hôpital se faire dépister chaque année.
Oui, il y, y a un internaute qui nous a envoyé une question, il veut savoir. Hein. Là, d'abord, le médicament pour les soins de l'hypertension artérielle n'est pas à la portée de toutes les bourses. Et la prise de ces comprimés, là, de ces médicaments tous les jours, n'affecte pas les reins parce qu'on dit que quand vous prenez certains produits, ça peut altérer les fonctionnements des reins.
Non, les médicaments ne sont pas prescrits aux doses toxiques. Raison pour laquelle, quand nous prescrivons les médicaments, il y a la dose minimale et la dose maximale à ne pas dépasser pour ne pas développer des effets secondaires comme l'insuffisance rénale. Avant même que le médicament ait reçu l'autorisation de mise sur le marché, il y a toute une étape, d'expérimentation pour lancer les médicaments sur le marché. À ce que je sache, il n'y a pas d'inconvénient parce que avant de prescrire les médicaments, nous faisons toujours l'évaluation, c'est-à-dire nous mettons en balance d'une part les risques et les bénéfices. Les risques de laisser un patient hypertendu sans traitement est plus important que quand on le met sous médicament.
Docteur Kamwanga, dans cette émission, nous donnons également la parole à la population. Donc, nous allons quitter les studios, aller au standard. On écoute les auditeurs et puis on revient et poursuivre un autre entretien. Quelles sont les causes majeures et les moyens de prévention de l'hypertension artérielle? C'est de ces thèmes que nous sommes en train d'aborder dans cette deuxième partie du magazine Okapi Service avec Dr Kamwanga Zéphirin. Nous rappelons qu'il est cardiologue. Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à nous appeler pour intervenir en direct au numéro 099-706-9941. Appelez-nous, nous allons vous rappeler pour intervenir en direct. Okapi. Monsieur Eminent Mwanda, vous nous appelez depuis la ville de Bukavu. Nous sommes là au sud Kivu. Bonjour et bienvenue dans Okapi Service. Monsieur Eminent Mwanda, est-ce que vous m'écoutez? La liaison n'est pas bonne avec Bukavu depuis les matins. Docteur, je me retourne vers vous. Est-ce que vous avez des données statistiques, la situation épidémiologique de l'hypertension artérielle ici en RDC?
Oui, ici en RDC, les études que nous-mêmes avons menées ont montré une prévalence de l'hypertension sur la ville ici de 25 à 40% d'hypertendus sur la ville.
C'est beaucoup, hein?
C'est beaucoup, oui. Déjà, selon les données de l'OMS, un adulte sur trois est hypertendu.
Et est-ce qu'en termes d'acceptation, d'adhésion aux soins, comme c'est une thérapie à vie, parce que c'est une maladie chronique, quelle approche utilisez-vous pour convaincre les patients à ne pas opérer des ruptures, des prises de médicaments?
Oui, la première approche, c'est expliquer aux patients c'est quoi l'hypertension. Et par rapport à la chronologie de la maladie, la plupart des patients ne savent pas que l'hypertension, c'est une maladie chronique nécessitant une prise en charge au long cours à vie. Et ils ne savent pas. C'est-à-dire la première étape que nous utilisons, c'est d'abord expliquer aux patients c'est quoi l'hypertension, la chronologie de l'hypertension. Et puis en ce moment-là, quand on prescrit les médicaments, le patient est déjà informé, il peut devenir compliant au traitement.
Et en même temps aussi, on voit dans nos communautés, il y a parfois certaines perceptions sociales, certaines religions qui font que les patients ne puissent pas accepter l'état de la maladie. Et donc, la place de la sensibilisation, elle est très importante, docteur Kamwanga.
Si, la sensibilisation elle est très importante. Et cette sensibilisation ne doit pas être seulement faite par les cardiologues. Elle doit être un problème de toute la communauté. Tous les prestataires de soins, y compris les infirmiers, y compris les aides-soignants, et même la population, les médias aussi, ils doivent jouer un grand rôle dans la sensibilisation.
Oui, c'est l'exercice qu'on est en train de se soumettre à l'instant, docteur. Merci d'avoir été, de venir ici avec des embouteillages, mais vous êtes quand même arrivé à temps. Ça, c'est à féliciter. Mais est-ce qu'en pédiatrie également, on trouve des cas, des enfants affectés par les HTA?
Oui, je venais de vous le dire. tantôt là que l'hypertension intéresse tout le monde. Même les enfants, ils développent l'hypertension.
Mais ça, c'est quelle catégorie d'enfants? Ce sont des enfants qui ont tendance à avoir un excès de poids ou...
Dans la plupart des cas, c'est une hypertension qui est secondaire à certaines anomalies. Les maladies endocriniennes, les maladies rénales et puis d'autres maladies.
Mmh. On me signale, docteur, qui est éminent de Bukavu, il est encore revenu, il insiste pour prendre la parole, alors on la lui donne. Monsieur éminent, bonjour et bienvenue, j'espère que cette fois-ci ça va aller. Hein. Est-ce que vous m'écoutez?
Bonjour, monsieur Tati, bonjour à tous les invités, ainsi qu'à tous les invités de la radio.
Nous vous saluons également.
Ah bon, je sais très bien que l'hypertension qui fait débat actuellement sur notre radio, c'est une maladie qui endeuille une famille chaque après-midi. Je vous dis ça, mon père biologique était décédé à cause de cette maladie. Et d'abord, je salue la pertinence du sujet. Mmh. L'invité, je crois qu'il est en train de nous éduquer et de donner des informations fiables. La question est de savoir, est-ce que la sensibilisation sur la prise en charge des malades appelant l'hypertension est vraiment effective ici en RDC, surtout dans des zones de préoccupation des éléments bien vétérants? Parce que actuellement, nous qui sommes ici, d'abord, c'est nous qui sommes beaucoup plus exposés à cette maladie. À chaque fois, il y a des paniques et ainsi de suite. D'un moment à l'autre, après cette crise aussi, je crois qu'ici, on aura beaucoup de cas.
Beaucoup de cas, oui.
C'est pour cela que l'invité qui est avec vous au studio, que nous aider d'abord à penser à cet aspect là-bas, parce que je sais très bien que la médecine a deux volets, il y a le volet curatif et le volet préventif. Il fallait d'abord que le gouvernement commence à mettre ça dans son plan, parce que dans moins de 10 ans, ou dans moins de 5 ans, pour ne pas exagérer, on aura beaucoup de cas d'hypertension ici. Et la deuxième chose, nous profitons de cette occasion pour plaider au compte des malades, parce que nous sommes orphelins à cause de cette maladie là-bas, et nous savons combien cela perturbe. Beaucoup de gens, beaucoup de malades reçoivent des traitements inappropriés à cette maladie. Il y a beaucoup de signes cliniques pour cette maladie là-bas. Je crois que l'invité très utile à ça. Et les signes cliniques, d'abord, qui peuvent aussi nous aider à nous donner certains signes cliniques, certains signes de manifestation de cette maladie. Parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui peut présenter cette maladie, mais ça ne change pas, il commence à prendre de n'importe quel médicament. Et après ça fait ça, la maladie en question va arriver dans un stade où il ne sera pas guéri. Alors, nous demandons à l'invité de nous donner réellement certains signes cliniques pour la manifestation de cette maladie. Alors pour finir, monsieur Tati, je sais très bien que la radio Tati est beaucoup plus écoutée. Les différents sujets que nous sommes en train de débattre à travers cette radio, il y a certaines résultats qui sont en train de préciser les résultats palpables sur le terrain. C'est pour cela que je peux d'abord solliciter à tout le monde qui est en train de me suivre ici d'accepter d'abord que cette situation-là soit d'abord dépistée. Parce que la phase maladie de la dite maladie, excusez la pathologie, est très cruciale. Il y a des fois que même le malade peut commencer à manifester des symptômes de la folie, ainsi de suite, parce que moi, je l'ai vécu avec mon père. De mémoire, Ibrahim Kangolimboli. C'est déjà compliqué. Il y a même des familles ici, surtout dans les milieux les plus reculés. Mmh. On commence même à les amener peut-être dans des chambres de prière, dans des maisons de fétichiers, ainsi de suite. Et donc, cela montre qu'il y a vraiment une absence de sensibilisation. Il fallait multiplier beaucoup plus de sensibilisation et de préparer la population. Le danger d'abord que regorge cette maladie. C'est à ce terme-là que je vous souhaite bonne journée et Bon déroulement de notre émission.
Merci beaucoup, Monsieur Eminent Mwanda. Nous rappelons que c'est depuis la ville de Bukavu, au sud Kivu, que vous intervenez. Excellente journée à vous également. Docteur Kamwanga, comment répondez-vous à l'auditeur de Bukavu? Parce que ça c'est vrai, Bukavu est sous occupation et il a dit que la pression, les gens sont vraiment sous pression et puis stressés certainement. Il y aura beaucoup de cas de personnes qui seront impactées, qui va impacter au fait leur état de santé. Comment répondez-vous à ces questions?
Oui, par rapport à la deuxième question, de savoir quels sont les signes,
les symptômes
que le patient hypertendu peut développer. Je venais de le dire précédemment que dans la plupart des cas, les patients hypertendus n'ont pas de symptômes.
Mais il y a quelques signes qui alertent la personne qu'il y a un sang qui ne va pas dans l'organisme.
Mais certains patients, ils peuvent consulter pour des maux de tête, ils peuvent consulter pour des vertiges.
Pour le soufflement, pour
la sensation des mouches volantes, le bourdonnement d'oreilles. Certains peuvent même consulter pour des épistaxis.
C'est quoi les épistaxis?
L'écoulement du sang à travers les narines. Mais certains aussi, ils peuvent venir au stade des complications, comme vous venez de le dire là, ils peuvent venir pour des douleurs thoraciques, pour des palpitations, ou bien il a développé une impotence fonctionnelle liée à un AVC.
Donc les bourdonnements aux oreilles, les vertiges, l'écoulement du sang par les narines sont quelques symptômes mineurs qui doivent interpeller
la personne à aller se faire dépister ou aller se faire prélever l'attention.
Bah, il dit aussi parfois, sa deuxième sous-question, il y a certains patients qui développent certains troubles mentaux. Est-ce que c'est vrai?
Oui, mais les troubles mentaux, ça c'est vrai. L'hypertension, quand elle évolue au long cours, elle donne même certaines complications au niveau du cerveau. Vous avez, en termes médicaux, ce qu'on appelle une atrophie cérébrale. Vous avez la diminution des capacités cognitives. Vous avez des démences. Vous avez des AVC qui, à la longue, ils vont évoluer vers la détérioration des capacités mentales et intellectuelles.
Et il demande également que l'on puisse accorder assez de moyens pour sensibiliser la population, parce que pour des cas, par exemple, qui développent certains ennuis de santé mentale, leurs proches les amènent dans les églises ou les amènent dans les hôpitaux. Ça, il l'a dit.
Oui, ça c'est vrai. Ça c'est le rôle aussi de l'État, de doter des programmes s'occupant de la prise en charge des maladies chroniques, des moyens nécessaire pour lancer des campagnes de sensibilisation sur terrain.
Et est-ce qu'on peut avoir une idée sur les socles, la pyramide des hygiènes de vie à adopter lorsqu'on est hypertendu?
Lorsqu'on est hypertendu, le premier volet d'abord c'est les régimes.
Régime alimentaire. Manger beaucoup de fruits et légumes.
Diminuer la consommation de sel. Diminuer la consommation de sucre. Diminuer la consommation de graisse.
Du tabac aussi et de l'alcool.
Du tabac aussi de l'alcool. Deuxième volet maintenant, c'est l'activité physique régulière.
À quelle fréquence, docteur?
30 à 45 minutes.
Trois fois par semaine.
Ouais.
Et pour des personnes qui ont tendance à être obèses?
La réduction pondérale s'impose comme moyen de lutte contre l'hypertension artérielle.
Oui, est-ce que tu peux nous dire un mot, parce que là, on est en train de tourner cette émission à l'occasion de la célébration de la journée mondiale de l'hypertension artérielle qui sera commémorée le 19 mai prochain. Parlez-nous un peu de l'hypertension artérielle chez la femme enceinte.
Ok. L'hypertension artérielle chez la femme enceinte, c'est ce que nous appelons hypertension artérielle gestationnelle. Elle peut être chronique, c'est-à-dire elle peut précéder déjà la survenue de la grossesse, tout comme l'hypertension peut être révélée
en période
de la grossesse. Et généralement, il arrive à la 20e semaine. C'est ce que nous appelons la pré-éclampsie.
Et à la 20e semaine, donc, est-ce qu'il faut également donner l'information dans les CPN? Ça, c'est très important parce que mon peuple périt par manque de connaissances, dit-on.
Oui, c'est ça. Raison pour laquelle il est préconisé dans les consultation prénatale là, on fait aussi un dépistage qui est systématique lorsqu'une patiente arrive en consultation. À part d'autres examens qu'on doit faire, on prélève aussi la pression artérielle pour voir comment elle évolue.
Ok, mais qu'est-ce qui justifie alors la prévalence de l'hypertension artérielle chez la femme enceinte? Vous avez parlé à la 21e semaine.
À partir de la 20e semaine. De la 20e semaine. Et ça, c'est le rôle du placenta. Le rôle du placenta et les hormones qui sont produites pendant cette période-là. C'est ça qui est justifié. C'est-à-dire, vous avez... C'est pourquoi les traitements, lorsqu'il s'agit de la pré-éclampsie, là, c'est l'extraction ou l'accouchement. Avec l'accouchement, la pression artérielle revient
chute.
Dans les normes.
Ah, d'accord. Et est-ce qu'il y a un kit qu'il faut prévoir lorsqu'on est hypertendu pour utiliser à la maison, par exemple, pour suivre l'évolution de la pression artérielle? Est-ce qu'en termes de consommation, il faut boire beaucoup d'eau? Est-ce qu'il faut boire moins d'eau? Quelles sont d'autres précautions à prendre lorsqu'on est une personne hypertendue, docteur?
Lorsqu'on est une personne hypertendue, le moyen le plus simple que nous recommandons à nos patients, c'est de disponibiliser à domicile leur tensiomètre pour faire ce que nous appelons des automesures. L'automesure, c'est un moyen aussi de suivi thérapeutique parce qu'il permet au patient d'adhérer à son traitement, de devenir
de suivre l'évolution de son état de santé.
Tout ça. Lui-même, s'il a son appareil actuellement sur le marché, vous trouvez des appareils automatiques. Le patient peut de lui-même prélever sa tension, et si elle est élevée, il va alerter son médecin, ou bien l'appeler au téléphone pour lui dire, non, docteur, voilà, je suis sous tel traitement, et puis j'ai prélevé ma tension, elle est à autant. Et nous demandons souvent aux patients qui sont suivis quand ils viennent en consultation, d'apporter leur relevé de l'automesure, qu'ils nous montrent leur carnet où ils font des prélèvements à domicile, pour éviter de poser les diagnostics soit par excès, soit par défaut. Parce qu'en venant à l'hôpital, on peut assister aussi à ce que nous appelons l'hypertension artérielle de la consultation. Ou l'hypertension
parce que la personne a marché.
Oui, la personne a marché.
Ils étaient partis en prenant le taxi, quelqu'un lui a mis en état de colère.
En état de colère, tout ça. C'est ce que nous appelons l'hypertension de la blouse blanche.
Oui.
Et la tension aussi peut être normale au cabinet, mais élevée en dehors du cabinet.
Tout à fait.
L'hypertension artérielle masquée.
Ok, docteur, on va retourner au standard. Il est temps de revenir au studio. On me dit qu'il y a un auditeur qui appelle de Bounia. Monsieur Thomas Ougueni, bonjour et bienvenue dans Okapi Service.
Bonjour, monsieur Jody. Monsieur Tati. Bonjour à l'invité ainsi que tous les auditeurs de la radio Okapi.
Bonjour à vous.
Moi,
également.
Étant donné que je suis... merci beaucoup. Je suis à Kisangani et non,
à, Kisangani.
Et non à Bounia.
D'accord.
Merci beaucoup. Je pense, monsieur Jody, monsieur Tati, pardon, l'hypertension, en tout cas, artérielle, ça a beaucoup, en tout cas, de... C'est un trouble, en tout cas, médical, courant, qui affecte surtout de nombreuses personnes à travers même le monde, par-ci, par-là. On voit que c'est vraiment... Ça a des conséquences aussi graves si on n'arrive pas à bien soigner ça. Mais j'ai beaucoup de préoccupations... à poser à l'éviter. Je ne sais pas si l'éviter a parlé ici des symptômes. Je ne sais pas si quels sont, en tout cas, les symptômes des risques qui peuvent être. Quel éviter pourra, en tout cas, nous donner les phénomènes, les symptômes des risques chez les adultes, mais également si on peut en avoir même chez les enfants, je ne sais pas. Mais quels sont, en tout cas, les facteurs des risques de l'hypertension artérielle? Deuxième question. Concernant les traitements, je ne sais pas si les traitements, il n'y a pas moyen qu'on puisse même faciliter cet aspect des choses, que ça soit qu'il y ait même la gratuité sur cet aspect des choses. Je ne sais pas si les traitements de l'hypertension, est-ce que c'est vraiment gratuit ou comment l'éviter pourra en tout cas nous donner des réponses quant à ça. Mais également, je ne sais pas si parce qu'il y a aussi des problèmes là au fond du village où on voit en tout cas les villageois qui se trouvent de ce côté-là ont du mal à fréquenter les hôpitaux pour accéder à des soins. Je ne sais pas si à terme, ça c'est surtout au gouvernement, quelle soit en tout cas les stratégies pour résoudre cet aspect des choses également, parce que la distance aussi dans les villages, là, vous voyez que y a on arrive à perdre des vies humaines, c'est aussi à cause parce que les hôpitaux sont un peu
éloignés des ménages.
Au lieu de ménager, ça pose un sérieux problème. Ça, c'est aussi au gouvernement de voir cet aspect des choses hein, pour qu'on ne puisse pas assister à des pareilles choses, monsieur Jody. Mais à la fin, je ne sais pas si à terme de conseil, si on est malade face à ça, quelles sont les procédures à engager? Parce que les gens recourent également à des charlatans. Là, moi, je qualifierais même des tragiques pratiques. Est-ce que la médecine, là, traditionnelle, peut être également efficace pour résoudre ou pour soigner, en tout cas, l'hypertension artérielle. C'est peut-être ça, les quelques préoccupations que j'avais, monsieur, aujourd'hui. Et bonne suite d'état.
Merci beaucoup, monsieur Thomas. Nous rappelons que c'est plutôt à Kisangani et non à Bouria que vous avez pris la parole. Cette fois-ci, docteur, on part à Bandounouville. Hein? Il y a un auditeur qui nous a appelé de Bandounouville, il s'appelle Patty. Patty, bonjour et bienvenue dans Capi Service.
Oui, bonjour, papa Tati Mapoko, et à notre invité.
À vous la parole.
L'invité, moi, j'ai un constat un peu que je ne parviens pas à déceler, c'est que dans les anciens temps, quand nous demandons même à nos grands-mères, à nos grands-parents, comparativement à notre temps ici, nous disent, ces temps ici, même les jeunes enfants, ils sont attendus. C'est quoi cette... ce nouveau système ici que nous trouvons même un enfant de moins de 14 ans, il arrive là où tension hématique, c'était quoi? Pourquoi? Dans l'ancien temps, il n'y en avait pas. Et aujourd'hui, les tensions commencent à monter comme ça, où est kitito hématique, dans l'hypertension et l'hypotension. C'est dit à quoi? Quel type d'aliments que nous, on commence à manger plus aujourd'hui que nos aïeux ne mangeaient pas, qui favorisent ce système de choses? Est-ce qu'un hypertendu a comme symptôme la colère? Parce que nous entendons les gens autres disent que bon, est-ce que c'est fondé? Quand quelqu'un est hypertendu, il faut qu'il se fâche. Donc c'est ça le symptôme, voire la colère. Est-ce que c'est ça? L'invité qui nous suit, vous me suivez?
Oui, nous vous recevons.
Nous sommes en ligne. Nous vous suivons.
D'accord. Qu'est-ce qui fait aussi que quand on veut aller chez les praticiens, comme mon frère là qui venait de dire, il vient de le contredire, mais nous voyons des fois, et parviennent quand même à maîtriser ces malades-là par rapport à vous qui traitez de manière moderne. Pourquoi vous ne pouvez pas aussi vous allier à eux et trouver un terrain d'entente pour soigner ces malades? Ce sont là un peu mes préoccupations.
Merci beaucoup, M. Patty. Nous rappelons que vous appelez de Bandounouville. Excellente journée. Docteur, je me tourne vers vous, l'auditeur de Kisangani est revenu hein, sur les signes caractéristiques de la maladie et la bonne hygiène de vie à adopter lorsque on est un hypertendu.
Les signes de la maladie, comme je l'ai dit précédemment, que l'hypertension artérielle est qualifiée de l'OMS des tueuses silencieuses. C'est-à-dire, dans la plupart des cas, les patients n'ont pas de symptômes.
Elle évolue à bas bruit.
Mais dans une faible proportion, les patients peuvent présenter des symptômes comme des maux de tête, des vertiges, les sensations.
Des maux de tête à répétition, c'est à quelle fréquence des maux de tête? Si j'ai des maux de tête le matin, je prends le paracétamol et puis ça passe.
Les maux de tête à répétition.
Quand ça devient permanent, il faut se faire consulter.
À l'hypertension, oui.
Parfait, ça. Ce sont les maux de tête. Ouais, ça, c'est un, de deux.
Les maux de tête, les sensations des mouches volantes, des troubles visuels. C'est comme s'ils voient des mouches volantes. Les bourdonnements d'oreilles.
Les bourdonnements, donc des bruits, des sifflements.
Des bruits, des sifflements.
Mais il y a la malaria, les médicaments contre la malaria également, certains produits tels que la quinine occasionnent également le bourdonnement. Ça, c'est pas lié avec l'hypertension artérielle.
C'est pas lié à l'hypertension. Dans la malaria, ce sont des signes qui sont transitoires.
D'accord. Mais quand ça devient permanent, il faut faire attention.
Il faut faire attention. Il faut aller se faire prélever la tension.
Et puis, en dehors de ça?
En dehors de ça, les vertiges. vous avez l'impression que les objets tournent autour de vous, ou bien c'est vous-même qui tournez autour des objets. Le vertige aussi, certains même... La vision floue. Certains viennent parce que ils ont un écoulement du sang par
les narines.
Et au stade plus avancé, parce que l'hypertension est révélée aussi par des complications. Certains viennent parce qu'ils ont des palpitations
à répétition.
Ils ont des douleurs
thoraciques.
Certains viennent parce qu'ils ont difficile à uriner. Ils n'urinent pas grand chose. Et puis certains viennent parce que ils disent non, j'étais là subitement, je ne vois plus ma main bouger. J'étais là, j'ai vu ma bouche déviée.
Là, sous forme d'une paralysie.
De paralysie, c'est déjà dans.
Là, c'est au stade critique.
Au stade critique où. Dans ce cas, on va évoquer la possibilité de soins. La survenue d'un AVC.
Et il a voulu savoir également, se faire une idée sur les bons comportements adoptés lorsqu'on est détecté hypertendu positif.
Les bons comportements adoptés, c'est d'une part, comme on l'a dit, les mesures régionales diététiques et d'autre part, la prise régulière des médicaments.
Bien manger, beaucoup plus des fruits, je les rappelle, hein, docteur. Les légumes, réduire la consommation de la viande, du sel. L'activité physique,
l'activité physique régulière,
45 minutes à l'intervalle de 3 jours la semaine, 3 séances la semaine.
La semaine, oui, arrêt de tabac, limiter la consommation d'alcool.
Oui, mais limiter la consommation, elle est relative à la modération, là, docteur.
Oui, mais de façon chiffrée, on peut aussi quantifier la densité de l'alcool.
Oui, mais quand vous dites limiter, c'est à quelle proportion? Parce qu'on est hypertendu.
Je prends
un vin ou deux.
Pour un homme, c'est 20 à 30 grammes d'alcool. Et si on doit chiffrer...
Mais s'il faut parler des grammes, nous, on a des gobelets, on a des verres. C'est pas en termes de grammes. Docteur, on prend quelle quantité?
Si on doit évoluer dans les... On doit évaluer la densité dans les bouteilles par un des 5...
35 litres, 70 centilitres.
5 centilitres, là. Oui, c'est généralement une bouteille ou deux.
D'accord. OK. Ouais. Et concernant les médicaments?
Concernant les médicaments, bon... On a plusieurs classes d'antihypertenseurs. Mais il y a des classes qui ont prouvé leur efficacité dans la réduction de la morbide mortalité cardiovasculaire. Parce que quand on prescrit les médicaments, on les prescrit pas seulement pour réduire la pression artérielle. Raison pour laquelle, avant d'initier les traitements, on nous demande de stratifier les risques. C'est-à-dire, les médicaments que nous devons prescrire, ils doivent avoir plusieurs effets. D'une part, il réduit la pression artérielle et d'autre part, il doit protéger les organes, comme le cerveau, comme le cœur et les reins.
Est-ce que la nervosité, c'est l'auditeur qui sait de Bandouville qui l'a posé, la nervosité, le fait de se mettre en état de colère en permanence, est-ce que c'est aussi un signe caractéristique où des gens qui sont hypertendus sont de nature colérique?
Non, pas du tout. Par contre, c'est la relation inverse qui est vraie. C'est-à-dire quand on se met en colère, on se met tout le temps en...
Sous pression, tout ça.
On a tendance à élever sa tension.
Donc, il faut éviter la colère.
Il faut éviter la colère, oui.
Et quelle est la place du repos pour un hypertendu? Quelle est son importance? Le sommeil, par exemple. Il faut dormir pendant combien d'heures?
Il faut dormir au moins pendant 8 heures. Dormir pendant 8 heures, le repos... Il a une place prépondérante dans la réduction de la tension par plusieurs mécanismes et plusieurs effets. C'est important.
Mais pour le cas, par exemple, de nous qui habitons Kinshasa, parfois, s'émouvoir, c'est compliqué. Vous quittez, il faut se réveiller tôt le matin pour arriver au bureau. Et quand vous retournez, c'est encore des embouteillages. Et nous dormons presque pas. Est-ce qu'il y a des astuces que l'on peut faire? Parce que, bon, si on ne dort pas bien aussi, ça a des incidences sur notre santé, docteur.
Oui, des astuces, c'est bon, créer toujours le temps parce que le temps, c'est comme l'argent, on n'en a pas toujours assez. C'est-à-dire que tout ce qu'on doit faire, c'est créer du temps. Même quand on arrive en retard, bon, créer un petit temps pour se mouvoir.
Se détendre et puis se reposer, rigoler avec des amis. Ça, c'est très important, c'est bon pour le moral.
Oui.
Et dites-nous, il a parlé qui c'est l'auditeur de Bounia qui a fait également allusion à l'apport des tradipraticiens dans la thérapie pourquoi vous ne collaborez presque pas avec... c'est plutôt l'auditeur de Bandouville qui a fait allusion aux tradis praticiens.
Bon, nous ne pouvons pas collaborer avec les tradis praticiens, d'autant plus que ce qu'ils font n'a pas une base rationnelle.
Mais il a relevé que votre manière de soigner a montré des limites par rapport à certains patients qui sont suivis par des tradis praticiens.
Mais on ne sait pas chiffrer, ou bien en termes d'impact, on ne sait pas évaluer ce que les tradis praticiens font par rapport à nous.
Oui.
Parce que chez nous, on a plusieurs étapes dans la validation d'un médicament ou d'une procédure.
Oui.
Actuellement, c'est la médecine basée sur les évidences. Vous avez, d'une part, la classe des recommandations et les niveaux de preuves scientifiques. Les niveaux de preuves, on dit, une recommandation...
C'est pas la médecine basée sur les hypothèses.
Oui, c'est pas la médecine basée sur des hypothèses. Une attitude thérapeutique, pour qu'elle soit acceptée des classes IN, on dit ça doit provenir des études randomisées, des méta-analyses. C'est-à-dire, on prend des populations, on dit à cette population, nous allons donner tel médicament. À celle-ci, on va donner. Au bout d'un certain temps, on va évaluer l'impact des médicaments dans les deux populations pour voir dans quel type de groupe le médicament a produit des effets bénéfiques par rapport à l'autre groupe en termes de la réduction de la bimortalité cardiovasculaire. Mais ce que font les praticiens, nous, on ne sait pas accorder du crédit parce que ce n'est pas scientifique.
Et avant de terminer, docteur, pouvez-vous nous rappeler les ABC de la prévention de l'hypertension artérielle? Et lorsque l'on est hypertendu, quelle attitude adopter? En 1 minute 30 secondes.
ABC de la prise en charge de l'hypertension artérielle.
Commençons par la prévention d'abord.
1, c'est l'adoption du mode de vie sain. 2, l'activité physique est régulière. 3, c'est la réduction pondérale.
Et dans le cadre de... lorsqu'on est hypertendu...
Pour les hypertendus, lorsqu'ils ont été diagnostiqués, confirmés, ils doivent prendre des médicaments de façon régulière. Et ce sont des médicaments...
Observer les recommandations du médecin surtout.
Observer les recommandations du médecin.
Et éviter des crises de colère, les repos.
Oui. Bien évidemment.
Et bien manger. Vous avez dit manger équilibré, beaucoup de légumes, beaucoup de fruits, moins de viande, moins de sel. L'alcool est banni, le tabac également est banni.
Normalement.
Merci beaucoup, docteur Zéphirin Kamwanga, d'avoir été avec nous dans ces rendez-vous d'Okapi Service. Vous êtes cardiologue pour parler de l'hypertension artérielle. Quels sont les facteurs de risque, les moyens de prévention et l'hygiène de vie à adopter lorsqu'on est hypertendu? Et cette émission, nous le rappelons que nous l'avions tournée à l'occasion de la célébration de la journée mondiale de l'hypertension artérielle. Et vous avez relevé que la sensibilisation est l'un des piliers important dans le cadre de la prise en charge médicale de l'hypertension artérielle. Merci d'avoir été avec nous et à la prochaine occasion, espérons que ce n'est pas le dernier rendez-vous, docteur.
Non, ce n'est pas le dernier rendez-vous. On sera toujours disponible à chaque fois que vous recourez à nous. Nous n'hésiterons pas de venir répondre.
Merci beaucoup. Et c'est par ici que prend fin le magazine Okapi Service que vous a présenté et coordonné Tati Mapoukou sous la supervision de Jean-Marc Matouaki, Élise Kavira a réalisé ses rendez-vous et Hippolyte Kapanga était à la prise des sons. Le rendez-vous est pris pour le jeudi pour un nouveau rendez-vous du magazine Okapi Service. Entre-temps, portez-vous bien et excellente journée.